Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler du hashtag Notre-Dame et de Twitter. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjane Chélil.
Et oui, Adjane. Il y a deux jours, c'est un petit peu le cœur de tous les Français qui a brûlé un peu avec le toit de Notre-Dame. Et on a voulu aller directement sur ce qu'on connaît et analyser un petit peu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ce soir-là. Si on se permet aussi, hein, quand même, on peut dire un mot là-dessus, de parler tout de suite à chaud, 24 heures après cet incendie de ça, c'est aussi parce que ça reste que matériel et que quand il y avait eu par exemple Christchurch, on avait mis beaucoup plus de temps, on avait attendu, on avait regardé un petit peu ce qui s'était passé avant de prendre la parole dessus, quoi. Je crois que c'est important de le rappeler.
Oui, t'as raison. Non, t'as raison. On a un peu hésité à le traiter, ce sujet, mais en fait, on a plein de choses à dire. Donc, on ne s'est pas retenu bien longtemps non plus. Mardi 16 avril 2019, la date va rester. Hein. Un feu se déclenche dans la toiture de Notre-Dame de Paris. Un feu gigantesque et incontrôlable. Les images sont insoutenables et elles envahissent en quelques minutes nos écrans, que ce soit les écrans télé, mais aussi et surtout nos écrans mobiles. Et alors que les chaînes de télé interrompent leur programme pour couvrir l'événement, les images déferlent déjà sur Twitter depuis plusieurs bonnes minutes et durant les 10 heures de la lente agonie du monument, Twitter s'est à nouveau imposé comme le média du breaking news, du mémorial commémoratif et puis peut-être aussi de la fake news.
Oui, c'est là que tu t'es rendu compte, Thibaut, que quand il arrive quelque chose comme ça, même si tu es un peu critique envers Twitter, tu y reviens pour suivre en direct l'événement. Moi, il faut savoir que je suis toujours sur Twitter, je suis fan de Twitter, je suis tout le temps dessus à regarder les dernières infos, surtout moi au niveau du foot. Mais dès qu'il y a un événement comme ça, un peu un événement inopiné, la première chose que je fais quand je veux savoir ce qui se passe, je vais sur Twitter pour aller voir ce qu'en disent des journalistes, des grands médias, pour avoir aussi l'information tout simplement avant tout le monde.
Ouais, c'est vrai que je suis assez, effectivement, un peu critique vis-à-vis de Twitter. Je ne suis pas un gros tweetos moi-même. Ceci étant, je me suis retrouvé, je pense, comme des millions de Français mardi soir devant Twitter, que j'ai actualisé un peu en mode non-stop. Et là, effectivement, dans ce genre de situation, tu vois la force d'un outil comme Twitter et comment Twitter est central sur tout ce qui est traitement de l'actualité chaude, brûlante, sans jeu de mots malvenu. alors ce qu'il faut, juste deux trois petites choses d'ailleurs à noter sur Twitter. Twitter a 13 ans, 13 ans que ça existe Twitter,
ouais,
donc c'est pas rien.
Ça fait un petit moment. Hein.
Et depuis un peu plus, d'une décennie, contre vents et marées, et malgré tout ce qu'il annonce, tous ceux qui l'annoncent mort, je pense que j'ai dû le dire au moins une ou deux fois ça quand même, Twitter continue à régner sur le breaking news, l'actualité, la vraie, brute, immédiate, à chaud, le breaking news à l'ancienne.
Hier, on disait que Facebook, c'était le grand-père des réseaux sociaux. Peut-être que Twitter est la grand-mère, je pense.
T'as raison.
Vu l'époque et continue à vivre avec un fonctionnement un peu parallèle à tous les autres réseaux, puisque c'est un réseau qui ressemble vraiment ni à Facebook, ni à Instagram, ni même à Snapchat. C'est vraiment resté une entité à part entière, en fait. Un fonctionnement, même un mode de fonctionnement à part entière.
Ouais, et dès le début, en fait, Twitter s'est vraiment imposé sur l'actualité brûlante, sur le breaking news. Et le premier cas d'école, c'était en 2009, le 15 janvier 2009. Il y a un avion US Airways qui s'est écrasé dans le fleuve Hudson, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, à New York. Et il y a une photo qui a été postée à l'époque sur Twitter qui a révélé la nouvelle avant les médias traditionnels. Et dès le départ, ça a souligné le rôle de Twitter dans l'actualité brûlante et sa capacité à aller dénicher de l'actu, en tout cas montrer de l'image de l'actu chaude avant les médias traditionnels. Et c'est ce qu'on a tout à fait vu dans le cas de Notre-Dame.
Oui, exactement. C'est avec Notre-Dame, on a vu tout de suite des images, des belles photos, des vidéos de la toiture de Notre-Dame en train de brûler, de la charpente qui crame. Ça s'est retrouvé en un rien de temps sur Twitter, vous avez d'abord les passants, les témoins, les badauds qui filment tout ça et qui l'envoient sur leur réseau tout de suite, souvent à la recherche du petit buzz, mais qui permettent aussi d'avoir un retour d'information rapide.
Ouais, Twitter aujourd'hui, c'est 326 millions millions d'utilisateurs actifs par mois. Alors, c'est clairement
c'est pas rien.
Ouais, c'est pas rien. Pour autant, c'est pas la société de médias sociaux la plus populaire,
oui,
ni la plus rentable. Hein, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui est clair, c'est qu'à certains égards, ben, c'est sans doute la plus influente. Hein. C'est le lieu principal où se rassemblent ben, les journalistes et les hommes et femmes politiques ou d'influence. Deux, trois chiffres là-dessus. 83% des leaders mondiaux sont sur Twitter. Donc, on verra que dans le sujet de Notre-Dame, ben, forcément, on les a entendus parler là-dessus. Et puis, un quart des comptes certifiés par Twitter sont des journalistes. C'est clairement eux qui font tourner la plateforme, et notamment dans ce genre de situation comme il s'est passé mardi.
Bah oui, c'est clair que c'est ces professionnels de l'information qui font tourner la plateforme. Tu parlais en 2009 de l'Hudson. Moi, je me souviens aussi des attentats à Paris autour du Bataclan, du Stade de France. Moi, personnellement, j'étais pas en France. J'étais en voyage un peu à l'autre bout du monde. J'étais au fin fond du Nicaragua, au bord d'une plage. Et en fait, c'est grâce à Twitter que j'ai commencé à suivre ce qui se passait et à voir rapidement des infos dessus, parce que là-bas, j'en avais pas trop des infos. Et c'est justement Twitter qui m'a permis de suivre un peu ce qui se passait en France quand j'étais très loin. Et c'est vrai que Twitter a toujours cette capacité, grâce à ses professionnels de l'info, que ce soit les grands médias ou que ce soit les journalistes, à mettre en avant l'information avant même qu'elle sorte à la télévision souvent ou à la radio.
Ouais, donc hier soir, bah, y avait de l'info sur Twitter, hein, et tout le monde avait quelque chose à dire sur le drame qui était en train de se produire. Alors il y avait effectivement, tu l'as dit, de l'actu, il y avait forcément beaucoup d'émotions aussi, et puis du dégueulasse, hein, bah, ouais, c'est aussi ça Twitter. Pour rentrer dans le sujet, le hashtag Notre-Dame, et bah, évidemment en trending topic sur Twitter, hein, donc le hashtag, un des hashtags les plus utilisés au monde pendant cette soirée, parce qu'on parle du trending topic monde. J'ai fait une petite recherche là-dessus et j'ai utilisé un site qui s'appelle Tweetrich, hein, que je vous invite à utiliser aussi, qui nous explique qu'il y a eu 1,3 milliard de comptes touchés par le hashtag Notre-Dame depuis hier. 1,3 milliard de comptes, donc ça laisse quand même, ça donne une idée, hein, quand même, de la volumétrie autour de ces sujets.
Oui, et puis en plus, on a vu que c'était pas le seul hashtag non plus. Il y avait Notre-Dame, hashtag Notre-Dame de Paris, hashtag Notre-Dame Cathédrale Fire. Il y en a plusieurs qui sont montés en trending topic comme ça dans la soirée et même hier.
Voilà, et donc la force de Twitter, évidemment, bah, c'est de pouvoir vivre. Et ça, c'est ce que moi, tu vois, nos échanges autour de Twitter, où parfois j'ai du mal à voir où Twitter s'intègre à moi dans ma veille, dans ma recherche, dans mon activité social media. Hier, j'ai eu vraiment un élément de réponse, hein. La force de Twitter, c'est de pouvoir vivre un événement en direct avec une multitude de points de vue différents. Et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie richesse, justement, de ces points de vue, hein, entre, évidemment, les images très factuelles de la progression des flammes sur l'édifice, les extraits de télé, les vidéos de gens en larmes dans la rue, le chant des croyants, etc. Je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de choses différentes pour couvrir un seul et même événement.
Oui, moi j'ai un dicton, hein, si ça existe, c'est sur Twitter.
Ouais,
c'est-à-dire que les images que vous verrez à la télé, elles seront à un moment donné diffusées par Twitter, par les télés même sur leur compte Twitter. Les photos que vous verrez seront postées par les photographes ou par les journaux sur leur compte Twitter, etc., etc. Donc toutes les informations, vous les retrouverez sur Twitter, et notamment, justement, comme je disais, parce que les médias professionnels, les grands médias sont sur Twitter et font des live tweets à chaque événement en direct. Les journalistes qui travaillent sur ces événements, eux aussi font des live tweets depuis l'événement en direct, et vous avez en plus de ça après les témoins, les passants, comme je disais aussi, qui sont en direct en train de tweeter. Donc avec tous ces éléments différents, vous arrivez à recouper, si vous prenez un petit peu de recul, les bonnes informations sur un événement direct avant tout le monde.
Ouais, d'ailleurs, je trouve à ce titre qu'il y a quelque chose d'assez étonnant de voir des journalistes qui individuellement utilisent leur compte Twitter individuellement du journal ou de la chaîne télé pour laquelle par laquelle ils sont payés, hein, diffusent de l'information sur leur compte personnel. Je trouve ça toujours assez étonnant. Tu te demandes à un moment donné qui est le média. Est-ce que c'est le journaliste ou est-ce que c'est la marque média? Est-ce que c'est BFM? Est-ce que c'est iTélé? Et tu as certains comptes de journalistes qui sont extrêmement puissants et qui ont une grosse audience et qui, dans ce genre de situation breaking news, sont peut-être parfois plus suivis que la chaîne officielle pour laquelle ils travaillent.
Oui, effectivement, ça peut arriver. Après, on imagine qu'ils donnent des informations, qu'ils font remonter des informations à leur chaîne et qu'ils en profitent pour tweeter des informations complémentaires, ou même dès que ça arrive, dès qu'ils les ont donné à la chaîne sur leur compte à eux. Pour petite comparaison avec un autre réseau social rapide, je suis allé voir quand même sur Instagram ce qu'il y avait sous le hashtag Notre-Dame. Il y a quand même 2,5 millions de posts. Mais pour moi, la grande différence, c'est ça qui fait la richesse de Twitter. C'est pour ça que là, tu parlais de la multitude de points de vue qui existent. C'est que si on va sur le hashtag Notre-Dame et qu'on voit une petite partie des 2,5 millions de posts, ce sont tous les mêmes posts. Ce sont des photos ou des vidéos de Notre-Dame qui est en flamme, mais on n'apprend rien en termes d'information, de nouveau. Il n'y a pas cette multitude de points de vue qui existe sur Twitter et qui permet d'avoir une information sûre et vérifiée.
Ouais, clairement, Twitter, c'est le lieu de l'actu. Hein. Et puis hier, c'était aussi le lieu de l'émotion. C'est sans doute ce qu'on retrouve aussi sur Instagram. Mais sur Twitter, il y avait beaucoup d'émotions. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des règlements de compte politiques. Et ça, c'est quand même toujours un petit peu surprenant.
Ouais, toujours.
Show must go on, hein, y compris pour les politiques. Donc beaucoup d'émotions, de la tristesse. Et toute la classe politique s'est globalement, en tout cas, réunie autour de cet incendie pour faire une sorte de trêve politique, en tout cas. Mais certains sont allés un tout petit peu plus loin et ont tenté de récupérer le drame. On va faire court hein, sur ce sujet qui n'est pas ultra passionnant. On peut juste citer Jean-Luc Mélenchon qui a un peu dérapé en invitant Emmanuel Macron à se taire ce soir parce qu'il avait prévu de s'exprimer hier soir. À l'extrême droite et aux extrêmes, évidemment, là, il y a eu débordement dans tous les sens. Gilles Le Breton qui a immédiatement fait une comparaison tout à fait discutable entre l'incendie et la situation politique en France. Et puis, chez les Républicains, la porte-parole Lydia Guiroux qui a soulevé un début de polémique autour des moyens qui étaient mis en œuvre pour sauver l'édifice. Bref, l'indécence des politiques.
J'ai quand même mieux que ça. Moi, j'ai un champion, j'ai un petit champion du monde.
Vas-y, balance, fais du name dropping.
J'ai un petit champion du monde dont il faut qu'on parle. C'est un monsieur qui s'appelle Philippe Carsenti, élu sous l'étiquette d'hiver droite à Neuilly, à côté de Paris, qui s'est quand même permis sur la chaîne Fox News, la chaîne quand même de Donald Trump, pas les derniers en termes de divulgation d'informations un peu louches, qui s'est permis de dire, même si personne n'est mort, c'est un peu le 11 septembre français. Il s'est quand même fait reprendre par le journaliste de Fox News qui lui a dit qu'il ne le laisserait pas dire de telles âneries entre guillemets sur sa chaîne. Et ça l'a pas empêché justement sur Twitter juste après de relayer son interview avec le commentaire « La vérité éclatera
». Mon Dieu.
Donc j'ai vu ça, j'ai vu aussi après on va peut-être parler aussi, ça c'était pour le côté un peu politique. Moi je pense que le côté politique de toute façon c'est des gens qui avaient déjà la parole avant les réseaux sociaux et avant Twitter et ces déclarations là ils les faisaient à la télévision, à la radio, ça s'est juste déplacé de médias pour aller vers les réseaux sociaux et maintenant les déclarations ils les font sur les réseaux sociaux. Moi je sais pas si vous vous souvenez, mais moi quand j'étais petit et qu'il se passait des choses un peu dans ce style là on voyait des débats télévisés où justement ils essayaient tous de se renvoyer la balle sur le fait qu'il faut une unité nationale et puis trois phrases d'après ils étaient déjà en train de se disputer sur ce qu'il fallait faire. Donc ça c'est pas quelque chose tellement de nouveau puisque c'est des gens qui avaient déjà la parole avant. Ce qui est plus intéressant et différent peut-être c'est tout ce qui existe autour des fake news véritables où là les réseaux sociaux donnent la parole à des gens qui l'avaient pas forcément auparavant et parfois il y a certaines personnes qui dérapent un peu ou qui lâchent des informations qui sont complètement
évidemment
fausses.
Il n'aura pas fallu très longtemps effectivement aux conspirationnistes hein, et aux mouvances extrêmes pour s'adonner à leur sport préféré hein, c'est-à-dire dire n'importe quoi et en tout cas essayer de faire basculer l'opinion vers des idées fallacieuses. Moins d'une heure après le début de l'incendie, une heure seulement, divers commentateurs sur Twitter utilisent l'événement pour approfondir leur thèse hein, leur théorie du complot à eux. Parmi elles on a vu une fake news qui a vraiment pris le dessus. Concrètement, il s'est avéré que c'était une statue sur la cathédrale.
Je vois de quoi tu parles.
Qu'ils ont transformé en pyromane avec un espèce de montage très grossier, avec un rond encerclé, tous les codes de la fake news.
Oui.
Et puis forcément un texte un peu insidieux. Qui est cet homme en djellaba sur la coursive de la tour.
C'est ce que j'ai vu aussi.
Voilà.
J'ai trouvé ça drôle. Hein. Je me suis dit vraiment, il y en a qui pourraient faire des spectacles d'humour. Moi, j'ai vu aussi Alex Jones, un polémiste d'extrême droite américain, qui a tweeté quand même « L'incendie de Notre-Dame de Paris est-il un signal de l'emprise du terrorisme islamique en France ?»
Ouais, mais lui, c'est un spécialiste, Alex Jones, hein, donc forcément...
Et puis là, on parle beaucoup de Twitter, mais moi, j'ai vu aussi dans des groupes Facebook de Gilets jaunes, par exemple, et qui ont aussi été relayés après sur Twitter, quelques parallèles entre le fait qu'Emmanuel Macron devait avoir une allocution le soir même, justement, un peu à la suite du grand débat et de tout ce qui s'est passé en France depuis quelques mois. Et il y a eu ce malencontreux incendie qui fait que Emmanuel Macron n'a pas pris la parole. Hein,
c'est Macron qui a fait brûler.
Et en tout cas, on a dit quelle coïncidence, ouais. C'est quand même bizarre. Alors je rassure tout le monde, hein, il ne faut pas non plus diaboliser à chaque fois, on en parle beaucoup nous ici aussi, des Gilets jaunes, c'est une minorité de personnes dans les Gilets jaunes qui fait des commentaires de ce style-là, la majorité était surtout triste pour Notre-Dame de Paris.
Voilà, et donc au milieu forcément de ces fake news, de ces intox, ces infox, souvent l'origine n'est pas très claire, il y a des images qui sortent comme ça, et puis nombreux sont ceux qui tombent dans le panneau, et ce qu'il y a de fou, évidemment il y a des gens comme vous et moi qui tombons dans le panneau, mais il y a des politiques aussi, ça c'est toujours surprenant quand on voit des politiques tomber dans le piège d'une fake news. À ce titre, on pourrait parler Meyer Habib, qui est député de la 8e circonscription des Français, qui lui a relayé clairement des infos sur c'est vrai que c'est douteux, comment se fait-il qu'il y ait quelqu'un sur le toit, ouais. Etc. C'est tout le problème avec les fake news, c'est que dans l'émotion, dans l'immédiateté de la news, et puis dans parfois une volonté un peu compulsive de tweeter, on peut se retrouver à dire des grosses bêtises et puis à relayer des mauvaises infos. On peut aussi souligner, là tu as parlé de Facebook tout à l'heure, on peut aussi souligner que certaines plateformes, malgré elles, et certains algorithmes notamment, ont contribué hier soir à la propagation de fake news, et c'est notamment le cas de YouTube. L'histoire elle est cocasse, c'est que YouTube, concrètement l'algorithme de YouTube, a semblé confondre un peu temporairement l'incendie sur la cathédrale avec les attentats terroristes du 11 septembre. Donc tu vois, il n'y a pas que des politiques français un peu douteux, il y a aussi YouTube. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est sous les retransmissions en direct de CBS et des autres chaînes médias sur YouTube, donc tout ce qui était direct, les téléspectateurs ont pu trouver un petit laïus explicatif qui était proposé par YouTube et qui s'expliquait c'était quoi les attentats du 11 septembre en 2011. C'est un truc qu'ils mettent en place quand il y a des contenus qui leur semblent douteux et qui ont l'air de propager de fausses informations. Ils mettent en place un petit disclaimer expliquant que oui, les attentats du 11 septembre ont bien eu lieu, si vous voulez plus d'infos cliquez ici, etc. Évidemment, les deux sujets n'ont rien à voir, et à date il y a une évidence que rien n'indique que l'incendie était le résultat d'un incendie criminel. Oui. Donc forcément, YouTube s'est excusé en disant ces contenus, ils ont été déclenchés par notre algorithme, malgré nous, et c'est un système qui, malheureusement, parfois reçoit des faux appels, donc on a rectifié et on s'excuse.
Oui, YouTube aussi peut faire des... Les algorithmes de YouTube peuvent faire aussi des petites bêtises. Après, sur Twitter, on peut effectivement, quand on repense à tout ce qui a été dit, ça peut parfois donner un peu envie de vomir. Twitter, je comprends, il y a tout sur Twitter, et sous prétexte même parfois d'anonymat, il y a une violence qui est un peu plus exacerbée que sur d'autres réseaux. Et il y a aussi des fake news qui, du coup, parcourent un peu les Twitter très rapidement. Mais en même temps, c'est vous qui faites votre propre Twitter. C'est à vous de choisir les personnes qui sont fiables et qui diffusent des informations assez vérifiées, en tout cas pour que vous ayez l'honneur de les suivre. Et souvent, ce sont des professionnels de l'information quand même. C'est plus facile d'avoir des informations vérifiées quand on suit des professionnels de l'information. Et on a quand même la chance... quand on suit les bonnes personnes sur Twitter, d'être bien informé et avant tout le monde.
Ouais, il n'y a pas que des trucs qui sont moches sur Twitter. C'est moi, j'ai vu aussi des très belles choses hier, et notamment ces appels à cagnotte qui ont explosé sur Twitter, dont Twitter s'est vraiment fait le relais. À ce titre, Litchi, la plateforme de cagnotte française, annonce que 1800 cagnottes ont déjà été mises en ligne pour soutenir Notre-Dame de Paris, les rénovations à venir de Notre-Dame de Paris. 1800 cagnottes différentes. Donc forcément, Litchi a expliqué sur Twitter qu'ils étaient extrêmement vigilants quant à l'utilisation de ces cagnottes, à quoi elles allaient servir exactement. On vous mettra en lien, si ça vous intéresse, un lien direct vers une cagnotte que recommande Litchi, parce qu'ils ont eu l'occasion de valider la personne qui se cache derrière. Elle a déjà 39 000 euros. On peut aussi expliquer que Emmanuel Macron, lui, a annoncé le lancement d'une souscription nationale. On salue la réactivité avec laquelle une plateforme web a été montée pour faire de la collecte de dons. Et pareil, on vous met mettra le lien direct vers cette plateforme qui est donc une plateforme créée par l'État. Et puis, allez, dernier petit clin d'œil autour de Notre-Dame, l'incroyable réactivité de Wikipédia. Ça, je suis tombé des nues, c'était assez fou. À 20h41, soit 2h30 après le départ de l'incendie, hein, la page Wikipédia de la cathédrale était déjà mise à jour avec cette mention qui, à mon avis, veut tout dire. Le 15 avril 2019, la cathédrale subit un important incendie. Point. C'est la merde. Point. Voilà.
Pas mal, pas mal. On a vu aussi sur Google Maps, hein, tu m'en parlais, un point incendie de Notre-Dame qui a été rajouté tout de suite pendant l'incendie. Donc, on voit une réactivité assez incroyable parfois.
Voilà ce qu'on pouvait se dire, les amis, sur ce Notre-Dame. Si vous, expliquez-nous comment vous avez vécu cet événement. Est-ce que Twitter a été central aussi dans votre soirée de mardi ? Est-ce que vous avez utilisé d'autres réseaux sociaux pour trouver vos informations sur l'incendie de Notre-Dame ? On est curieux d'échanger avec vous.
Ouais, venez nous en parler à Supernatif, hein, sur nos réseaux Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook. Et puis moi, j'ai envie de finir par un petit tweet mignon que j'ai vu qui disait justement merci pour vos dons pour réparer la cathédrale de Notre-Dame. Victor Hugo vous remercie et vous souhaite d'en faire de même avec les Misérables. Je trouvais ça assez beau.
C'est mignon.
Voilà.
Évidemment, vous nous écoutez sur votre plateforme de balado-diffusion comme on dit chez France Culture, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, à peu près partout. N'hésitez pas à nous mettre une note. Merci à ceux qui récemment ont commenté et ont liké sur iTunes. Continuez à le faire, s'il vous plaît. Ça nous donne un vrai coup de pouce.
Merci à tous.
Merci à tous. Bonne
journée.
Très belle fin de journée. Salut.
Ciao.